Morin.
Le sentez-vous?
Live.
Avec Dominique Morin.
C'est beau à voir. C'est beau à voir.
Radio X.
88-670-9098. Il y a encore du stock et rien qu'en masse dans ce show-là. Rénal Duberger, tantôt, on va faire une édition spéciale. Les extraits du premier débat écolo. Il y a des niaiseries qui se sont dites, puis je pense que Rénal a le goût des ententes et des commentés. Mais d'abord, voici Jeff Caron. Hey! Salut Jeff Caron, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien. Très bien. Beaucoup de stocks à l'international, beaucoup de stocks dans le Dôme. Tu restes pas dans le Dôme, mais tu suis l'actualité du Dôme. Tu veux-tu aller dans ce que tu m'as envoyé? La Russie, CIA, la frontière avec la Finlande? Regarde, vas-y comme tu le sens. Là, je sais que tu t'intéresses à beaucoup de choses.
Ouais, ben c'est ça. Je voulais parler de ça parce qu'évidemment, oui. Je pense dans les médias au Québec,
on n'en parle pas du tout.
Quelque chose. Exactement. Alors que il y a des menaces russes en ce moment sur les pays baltes. Puis, à mon avis, depuis le déclenchement de la guerre, il y a 4 ans et demi, je pense que les menaces n'ont jamais été aussi crédibles que maintenant. Donc, ce dont on parle, c'est des menaces qui pourraient avoir une intervention de l'armée russe, soit contre les pays baltes, la Finlande, peut-être la Pologne. Puis donc, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Ben, il y a des images satellites qui montreraient des concentrations de troupes russes près des frontières de ces pays-là. Puis qu'est-ce qui rend la menace crédible? Vous allez me dire, ben, il y a plusieurs facteurs, puis je vais passer au travers là, très rapidement. D'abord, au cours des dernières semaines, la Grande-Bretagne a promis de transférer à l'Ukraine des armes à longue portée ou à tout le moins la technologie qui permettrait aux Ukrainiens de construire ces armes-là, qui permettrait aux Ukrainiens de frapper là, avec des missiles de croisière là, en profondeur dans le territoire russe. Puis ça, c'est inacceptable pour la Russie parce que c'est clairement une arme offensive. C'est pas une arme défensive. C'est complètement différent des missiles Patriot américains qui interceptent les missiles russes ou les drones russes au-dessus du territoire ukrainien. Là, on parle d'armes offensives. Et puis, pour beaucoup de Russes, surtout la ligne dure dans le Kremlin, pour eux, c'est un acte de guerre de la part d'un pays membre de l'OTAN. Puis là, Poutine, il y a de la pression venant de cette ligne dure-là pour agir. Parce qu'encore une fois, ces gens-là considèrent que c'est un acte de guerre. Puis depuis les 2-3 dernières semaines, dans les médias russes, c'est le seul sujet dont ils parlent. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux. Autre chose, en ce moment, il y a des grosses rumeurs de mobilisation en Russie. Donc au cours de la dernière semaine, vous avez plus de 100 000 jeunes hommes russes qui ont quitté le pays, qui sont venus se réfugier chez nous, en Arménie ou en Géorgie. Et le troisième élément, c'est qu'il y a une visite surprise la semaine dernière du directeur de la CIA en Russie. Pourquoi? On ne le sait pas. Le but de la visite n'a pas été divulgué. Mais l'hypothèse qui circule le plus, c'est que les Américains auraient peut-être découvert, avec les images satellites, ce que les Russes s'apprêtaient à faire. Puis la Maison-Blanche a envoyé le directeur de la CIA en Russie pour dire aux Russes « on sait ce que vous êtes en train de prévoir, puis c'est inacceptable ». Puis cette thèse-là est renforcée par le fait que sur son chemin du retour, le directeur de la CIA s'est arrêté dans les pays baltes pour discuter avec des dirigeants politiques de ces trois pays-là. Donc, crédible, oui, la menace, elle est crédible, mais est-ce qu'elle va se produire, ça, évidemment, c'est une autre question. Parce que, tu sais, d'un côté, il y a la pression, comme je disais, des tenants de la ligne dure en Russie qui exigent une réaction de la part du Kremlin, de Vladimir Poutine, mais de l'autre côté, Vladimir Poutine sait très bien que les Russes accepteraient pas d'être mobilisés de force dans l'armée, parce qu'il sait très bien que si c'était le cas, ça pourrait provoquer des troubles civils. Maintenant, la décision qu'il va peut-être être obligé de prendre, c'est il va être obligé de... À qui est-ce que c'est le moins risqué de déplaire? Aux tenants de la ligne dure ou à la population? Puis ça, c'est triste parce que c'est le risque. Quand tu t'amuses à faire monter la pression sans arrêt, petit à petit, tu t'en viens à perte de vue où se situe réellement le point de non-retour. Puis le point de non-retour, là, ça pourrait très bien être le transfert de ces missiles-là à longue portée ou de leur technologie aux Ukrainiens. Puis quand tu as atteint ce point-là, les deux parties, là, ils veulent pas perdre la face. puis ils finissent par poser des gestes irréfléchis. Puis ça, c'est un engrenage infernal dont on ne peut plus s'extraire. Puis malheureusement, il y a beaucoup de guerres dans le passé qui ont commencé comme ça. Maintenant, dernière chose que je dirais là-dessus, c'est s'il y a une réaction russe qui devait se produire, est-ce qu'il y aurait une attaque en règle? Moi, je pense pas, parce que principalement, la Russie n'a pas assez de troupes. Moi, je pense que ce qu'ils ont en tête, s'ils ont effectivement l'intention d'aller de l'avant, c'est une déstabilisation de ces pays-là, une intervention à petite échelle, comme le déploiement de petits bonhommes verts, pour deux objectifs, pour tester la détermination de l'OTAN, voir aussi les divisions au sein de l'organisation, parce que là, si réellement la Russie attaque un pays de l'OTAN, mais techniquement, c'est l'article 5, c'est tous les pays membres de l'OTAN devraient déclarer la guerre à la Russie. Donc, est-ce que c'est la stratégie de poser un geste, tu sais, à petite échelle, juste pour voir, tester la détermination de l'OTAN, pour mettre en lumière ces véritables divisions? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet, mais c'est quand même, malgré tout, assez inquiétant, parce que je pense que depuis 4 ans et demi, on parle beaucoup là, que la Russie va attaquer un pays membre de l'OTAN, on parle beaucoup de ça depuis 4 ans et demi, ça a été du blablabla pour rien. Par contre, cette fois-ci, je pense que lorsqu'on met tous ces éléments-là ensemble, la menace, elle est crédible. Maintenant, ce qui va se produire, encore une fois, ça c'est une autre question.
Quel est l'état des choses, Ukraine, Russie? Qui croire? Quelles sont les bonnes sources d'informations? Tout ce qu'on voit, c'est des buildings qui sont incendiés, qui sont bombardés. Et là, l'Ukraine réplique avec des drones en Russie, en territoire russe. Et là, Kiev qui est bombardé ou qui semble l'être mur à mur. Qui croire au bout du compte?
Ouais, ben,
qui croire et quoi croire?
C'est ça. Ben écoute, d'abord, en ce moment, les Ukrainiens, ils n'ont plus de missiles patriotes. Donc, ils ont
des difficultés à
intercepter les drones, les missiles de croisière russes. Donc, c'est pour ça que Kiev et d'autres villes sont lourdement frappées par l'armée russe. Puis l'autre chose, moi, j'ai un collègue qui est arménien russe, qui est allé passer une partie du mois d'août en Russie, à Kazan et Katerinbourg, dans cette région-là. Et puis, il me disait que c'est l'ambiance en Russie en ce moment, pour prendre une expression anglaise, c'est « gloomy », c'est « tristounet ». Il y a beaucoup d'alarmes, des sirènes de drones. Donc, à plusieurs reprises, ils étaient obligés d'aller se réfugier dans les stations de métro. Il y a des pénuries d'essence. Donc, il y a une espèce de marché noir maintenant parce que c'est extrêmement difficile de se procurer de l'essence parce que pendant l'été, les Ukrainiens ont frappé des raffineries en Russie avec leur frappe de drone. Et puis, donc, il va à chaque année, puis il dit, depuis les 4 dernières années, vraiment, j'ai senti que l'ambiance, elle est extrêmement morose. Puis tout le monde sait pourquoi ça se produit, mais personne ne veut parler de la véritable raison. Il n'y a personne qui a réellement évoqué la guerre dans les discussions. Il dit, mais par contre, quand tu te promènes dans les villes, dans les cimetières, il dit, tu vois là, des dizaines et des dizaines de nouvelles tombes où ils viennent d'enterrer des
Donc,
gens,
ça a percé de l'opinion publique, ça a percolé. Là. Dans l'opinion publique russe, ah oui. On sait maintenant, malgré la censure et le blindage médiatique, que la Russie est en guerre et qu'il y a des pertes.
Ah oui, ça les pertes, là, c'est indéniable.
On les voit, on les sent.
Ben oui, tu peux pas cacher les cercueils, les tombes qui sont...
Donc, Poutine a peur pour... il n'a pas peur pour sa vie, mais il a peur que son pouvoir commence à vaciller.
C'est ça, parce que les gens commencent à sentir le coût politique, le coût économique de la guerre. Tu sais, jusqu'à il y a quelques mois de ça... C'était un truc dans les nouvelles, c'était à distance, il n'était pas vraiment impacté par ça. Mais là, avec les attaques de drones, si tu regardes sur la carte, Kazan et Katerinbourg, c'est vraiment loin de l'Ukraine. Donc, les Ukrainiens, quand même, sont capables de déployer des drones à très longue portée pour aller frapper vraiment en profondeur ou en tout cas faire peur aux gens. Donc, c'est ce que mon collègue me disait. Mais il n'en parle pas, là, parce que c'est un sujet qui est tabou. On ne peut pas en parler en Russie, mais les gens ne sont pas cons. Ils réalisent là, que peut-être que la guerre n'est pas... Je ne dis pas que la guerre n'est pas en train de tourner à l'avantage des Ukrainiens, mais disons qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça dure aussi longtemps puis qu'ils soient obligés de faire la file pendant des heures et des heures pour avoir 5 litres d'essence. Là. Ça, c'est, dans un état autoritaire, c'est pas bon. Non. Quand la population commence à être impactée comme ça, à sentir que leur pouvoir d'achat, ils commencent à perdre leur pouvoir d'achat, c'est ce que j'explique, c'est le début de la rupture du contrat social où les gens se disent, bon, ben écoute, on accepte de ne pas avoir de liberté politique, mais en retour, on nous a toujours promis des avantages matériels puis la sécurité. Alors on se rend compte qu'on ne l'a plus, donc ben là, on va peut-être descendre dans la rue pour exiger des changements. Donc, c'est ça à quoi Poutine est confronté aujourd'hui. Donc, une frustration grandissante de la population, mais qui, en même temps, n'est pas mobilisable. Les gens en Russie là, qui sont battus en Ukraine, ils l'ont fait pour le cash. C'est à peu près des 5-6 000 euros par mois. C'est des salaires absolument astronomiques en Russie. Puis lorsque les gens sont tués, la famille obtient en moyenne entre 60 et 75 000 euros. T'sais, avec cet argent-là en Russie, là, tu peux te faire construire une maison, puis les enfants des soldats décédés ont des places assurées à l'université, etc. Donc, à quelque part, les gens qui ont accepté de faire le sacrifice de leur vie, c'était pas un sacrifice pour la mère patrie, c'était plus un sacrifice pour leur famille. Mais là, maintenant, si tu mobilises des gens de force, ben c'est le retour en arrière dans les années 80, lorsque les Soviétiques envoyaient des conscrits en Afghanistan. Puis ça joue un rôle extrêmement important dans l'éclatement de l'Union soviétique, parce que c'était des jeunes hommes qui étaient envoyés au casse-pipe sans être payés pour une cause à laquelle ils croyaient absolument pas, là. Donc ça, c'est le piège dans lequel Poutine se trouve. Mais en même temps, t'as la pression des purs et durs qui, eux, se disent « On est attaqué par l'Occident, puis il faut répliquer, là. Puis si on réplique pas, on va apparaître comme un peuple, un pays de faibles, puis on peut pas se le permettre. » Donc, tu sais, c'est l'étau dans lequel Poutine se trouve.
As-tu 30 secondes pour commenter un peu ce qui se passe à distance de toi, c'est-à-dire ce qui se passe ici dans le Dôme, l'élection, la campagne, un petit 30 secondes, là, fréchette et tout ça, tu regardes ça aller à distance, c'est sûr?
Ouais. Écoute, je pense que je l'ai écrit sur les réseaux sociaux il y a une couple de jours. Si Mark Carney réussit à remporter l'élection partielle dans Chicoutimi-le-Fjord...
Ce qui a été fait.
Christine Fréchette va... Le soir du 5 octobre prochain, Christine Fréchette va rester première ministre.
Prof.
Et je maintiens cette prédiction. Parce qu'on voit vraiment aussi dans les sondages, il y a une montée en puissance de la CAQ, puis il y a une mobilisation des gens derrière la lutte contre le méchant agent orange qui veut nous assimiler, nous imposer des tarifs. Voilà. Graduellement, ça va devenir la question de l'urne. Puis à cet égard-là, Christine Fréchette a toutes les cartes en main pour miser là-dessus puis se faire réélire.
Merci beaucoup, tristement. Salut, bye. Merci.
Salut, bye.
9h36, circule.
Oui, il faut qu'on fasse une circulation parce qu'il y a deux incidents sur le pont Pierre-Laporte. C'est direction nord, donc pour les gens qui veulent accéder à la rive nord. Un, à la sortie du pont, là, vraiment à la hauteur de la sortie pour aller à l'aquarium ou aller chercher le boulevard Champlain. Puis l'autre, à l'entrée du pont, là, juste, tu sais, on n'est pas encore vis-à-vis le fleuve. Donc, deux incidents. Les deux, c'est direction nord. Les deux occasionnent des problèmes. Pour l'instant, on voit que ça relance, surtout sur la 73, mais tranquillement puis sûrement, ça aura son impact également sur la 20 Est et la 20 Ouest.
OK, ben très courte pause, puis en revenant, la planète pleure.
Morée. Restez là, on revient dans pas long.
Live. Radio X.